Du coup, pour notre présentation d'aujourd'hui, nous allons parler de l'apprentissage ou de l'enseignement d'une seconde langue ou d'une langue étrangère. Donc, en d'autres mots, c'est une langue qui n'est pas notre langue maternelle. La transmission étant notre sujet commun à tous pour aujourd'hui. L'apprentissage ou l'enseignement d'une seconde langue ou d'une langue étrangère ne fait pas exception, car tout type d'apprentissage s'articule autour de la transmission d'informations ou de connaissances d'un point A à un point B. Donc en d'autres mots, transmission de la langue cible depuis la source, donc la personne qui va faire apprendre la langue, jusqu'à l'objectif, la personne apprenant la langue. Au cours de nos lectures, on a compris qu'il existait deux types de facteurs pour cette transmission, à la fois les facteurs linguistiques et les facteurs translinguistiques. Les facteurs linguistiques, c'est tout ce qui concerne exclusivement la langue. Donc on va avoir par exemple la phonétique, le lexique, la sémantique ou la morphosyntaxe. On va en présenter 7 aujourd'hui, dont par exemple la grammaire, le vocabulaire, la répétition ou l'automatisme. Et les facteurs translinguistiques, c'est tout ce qui va aller au-delà de la linguistique. Donc là, ça va plus être un côté psychologique, sociologique ou environnemental. On va en présenter 9, comme par exemple l'attitude, la motivation ou la culture.
Donc, dans un contexte monolingue, l'acquisition du langage et de la langue se font simultanément, ce qui n'est pas le cas dans l'apprentissage d'une langue seconde. Il est évident que le lieu qui favorise l'apprentissage d'une langue seconde est premièrement le cadre familial. Il y a une enquête qui a été faite par l'Institut national d'études démographiques en France, qui a étudié 400 000 foyers sur 3 générations. L'observation et l'enregistrement de ces foyers a permis d'établir qu'au sein de familles monolingues ou plurilingues, l'apprentissage n'a pas lieu par imitation, mais plutôt à travers la diversité des échanges avec des personnes de statut, d'âge, de ressources linguistiques ou de vécu variés. Par ailleurs, l'école est également un lieu non négligeable dans l'apprentissage d'une langue seconde, et le principe de transmission, c'est le même qu'avec le cadre familial. Il ne se fait pas par imitation, mais par interaction avec l'adulte. Le rôle de l'enseignant est donc crucial, et il doit être le modèle de l'enfant et lui formuler les mots et les phrases afin qu'il puisse ensuite les stocker et en faire un inventaire. Il doit aussi inciter à la stimulation de la parole dans un cadre qui doit être favorable et encourageant, et ensuite il doit mettre en ordre les acquis langagiers qui ont été construits par l'apprenant pour inciter à construire un lexique et une syntaxe riche progressivement. Donc l'apprentissage d'une langue seconde repose sur diverses compétences dépendant des facteurs suivants. Le premier étant l'interlangue, c'est un système spécifique à l'apprenant. En se basant sur des énoncés qui lui ont été adressés et sur des stratégies conscientes et inconscientes qu'il possède, l'apprenant va ensuite produire un système transitoire en s'appuyant sur sa langue première. Donc l'interlangue, c'est un système qui est systématique du coup. Les erreurs permettent de constituer un système interne chez l'apprenant et ensuite c'est dynamique parce que ces erreurs évoluent et progressivement apportent à l'apprenant des acquis langagiers plus riches. C'est aussi dynamique parce que, spécifique parce que c'est un système qui est spécifique à l'individu seulement, il n'est pas commun à une communauté. Ensuite, la compétence réceptive, on l'appelle aussi input, elle consiste à l'écoute et à la lecture de la langue de l'apprenant. Ce procédé offrirait, selon Krashen, des informations nécessaires à la construction consciente ou inconsciente de connaissances sur le système de la langue transmise. Elle peut être mise en contraste avec la compétence productive, qui elle est aussi dite output. Elle représente la compétence de la parole et de l'écriture. Par ailleurs, Meryl Swain, en 1985, affirme que l'input, donc la compétence réceptive, ne suffit pas à la transmission d'une langue, car l'apprenant doit être poussé à produire la langue transmise et à la pratiquer de façon précise, cohérente et appropriée. Donc, Swain atteste que la compétence productive, par ailleurs, permet de remarquer ses lacunes et améliorer le système interlangue existant de l'apprenant. Ensuite, pour ce qui est de la grammaire, en faisant apprendre explicitement les règles de la grammaire et la conjugaison des verbes, l'acquisition d'une compétence implicite doit précéder et permettre à l'apprenant d'employer une grammaire interne correcte et assez naturelle. Il est communément promu qu'une base écrite pourrait renforcer la compréhension de cette langue et donner une imprégnation de notions orales de celle-ci. Ensuite, la compréhension orale, elle s'articule premièrement autour de la compréhension du lexique, qui permet ensuite une compréhension globale de ce qui est dit. Il est important d'établir un paysage sonore afin qu'en premier lieu l'apprenant entende et ensuite arrive à écouter pour comprendre. Et donc chaque langue possède son propre paysage sonore qui repose sur des facteurs culturels tels que les onomatopées, les sons de la langue, l'intonation, les souffles, etc. Et le comportement auditif de l'apprenant se basera fortement sur sa langue première. Ensuite, pour la production orale, à partir du lexique acquis et des phrases entendues et mémorisées, l'apprenant peut alors construire progressivement une grammaire de la langue. Et c'est à partir de cela que la production orale peut ensuite commencer en introduisant ce qu'il a déjà entendu et y ajouter quelques variations. Ainsi, les premières phrases de l'apprenant que l'apprenant produira seront une reproduction de ce qu'il a déjà entendu. Et il aura ensuite plus de liberté et pourra construire lexicalement des phrases plus autonomes. Et pour finir, le dernier facteur, les connaissances relatives aux langues apprises antérieurement. Donc il est supposé que chaque langue précédemment acquise a un rôle spécifique dans l'acquisition d'une nouvelle langue, parce que du coup c'est un phénomène d'influence qui consiste à employer dans une langue les éléments propres à d'autres langues, mais principalement à la langue première de l'apprenant.
Et maintenant pour les facteurs translinguistiques, on va commencer d'abord par définir ce qu'est la translinguistique. Alors, elle fait partie du domaine de la psycholinguistique de l'éducation et peut être définie comme étant les connaissances communes nécessaires pour comprendre ce qui est communiqué dans une situation d'énonciation. Donc, les facteurs translinguistiques, on peut dire que c'est des éléments qui sont en dehors de la sphère linguistique, mais toujours dans le cadre de l'apprentissage. Car les éléments tels que la motivation, l'émotion, l'attitude, exercent une influence sur l'apprentissage qui peut-être soit qui peut soit aider ou entraver ce dernier. Alors pour le premier facteur, on a celui de l'âge auquel le sujet tente de s'approprier ou d'apprendre la langue cible. Et ici, on a l'hypothèse du linguiste allemand Erik Lenneberg qui l'a avancé en 1967, et c'est l'hypothèse de la période critique d'apprentissage. Et selon lui, la période entre 2 et 12 ans est la plus privilégiée pour acquérir ou bien assimiler une langue de la meilleure façon, plus effectivement. Pour le deuxième facteur, on a celui du contexte dans lequel se fait la transmission et l'apprentissage. Et ici, on peut distinguer deux contextes prototypes. Le premier étant le contexte naturel ou bien le contexte non guidé. Et ici, l'apprenant est exposé à la langue et l'utilise pour ses diverses interactions sociales. Et il s'agit ici de l'apprentissage dans un milieu ou dans une situation réelle. Le contexte guidé, qui est aussi appelé le contexte institutionnel, est une situation où l'apprenant se fait guider et aider pour apprendre la langue cible. Il existe aussi deux types de contextes Le premier étant le contexte homoglotte, où la langue apprise, la langue cible et la langue parlée dans le milieu sont la même. Et le contexte hétéroglotte, c'est le contraire. La langue cible et la langue parlée par les locuteurs de la communauté sont différents. Troisièmement, on a l'attitude et la manière dont on peut dire que la manière dont le locuteur perçoit la langue joue un rôle et influence l'apprentissage de cette langue. Alors, si la perception est positive, il sera plus facile d'apprendre la langue. Et disons, si elle est moins positive, ça sera un petit peu difficile ou moins effectif de l'apprendre. En quatrième lieu, on a le facteur de la motivation. Et ici, on peut distinguer trois mesures. Bien, on peut mesurer la motivation selon trois dimensions. La première étant celle de l'intensité, qui se réfère au niveau d'effort investi par l'apprenant pour apprendre la langue. La deuxième dimension étant celle du désir d'apprendre la langue cible, c'est-à-dire dans quelle mesure l'apprenant souhaite atteindre un niveau élevé et de maîtriser la langue cible. Et la troisième dimension étant l'attitude à l'égard de la langue qu'on a déjà invoquée en troisième lieu. Cinquièmement, c'est le facteur de la culture de la langue cible. Alors, comprendre le contexte culturel de la population qui parle la langue cible va aider à comprendre la langue et vice-versa. En d'autres termes, en comprenant les règles sociales qui sont reflétées dans et par la langue, le locuteur ou bien l'apprenant comprendra plus facilement et sera capable de transmettre des messages qui exigent souvent des connaissances au-delà de la formulation simple de mots et de phrases. Le sixième facteur est celui de la situation d'apprentissage. Alors ici, c'est plus, on parle plus du contexte ou de l'environnement scolaire, voire académique. Et on a l'environnement interactif qu'offre la salle de classe, la relation enseignant-apprenant et la qualité de la leçon joue un rôle important dans la transmission et l'assimilation des connaissances linguistiques transmises. Septièmement, on a la durée et l'influence. Plus l'apprenant est exposé longtemps à la langue cible, plus il lui sera facile d'assimiler, plus il lui sera facile et rapide, pardon, d'assimiler la langue cible. Huitièmement, on a le facteur de la personnalité. Alors, on connaît que chaque personne ou bien chaque élève a ses propres préférences d'apprentissage. En fonction de leur personnalité. Donc, par exemple, si on prend un élève ou un apprenant qui est extraverti, il préférera apprendre dans un contexte, bien dans un groupe, parce que le style d'assimilation et de transmission d'informations sera plus compatible avec sa personnalité que d'apprendre seul. Le dernier point est celui de l'émotion qui est étroitement liée à la personnalité de l'apprenant et qui affecte l'apprentissage de ce dernier. Et l'émotion peut être influencée par plusieurs facteurs ou éléments qui peuvent être l'anxiété, qui peut être élevée ou faible, la motivation qui peut être forte ou faible, la détermination, la confiance en soi et la responsabilité de l'apprenant envers la langue apprise. Alors, avant de finir cette partie, on doit préciser que ces éléments sont interdépendants. Et c'est pour cela qu'on peut trouver certains aspects de certains facteurs présents dans d'autres.
Pour conclure très rapidement, une citation qui vient du congrès SAES de 2023 dit que la transmission constitue le cœur de l'enseignement-apprentissage. Donc effectivement, comme on vient de le voir, l'enseignement et l'apprentissage sont des moyens de transmission. Et ici, la transmission est influencée par différents facteurs que l'on vient de vous présenter. Et du coup, cette liste, elle est non exhaustive, elle peut être complétée, mais c'est déjà une bonne représentation des facteurs dont on a besoin pour la transmission d'une langue étrangère ou d'une seconde langue. Voilà.
Y a-t-il des questions ? C'est bon. J'ai une question par rapport au l'âge critique de l'apprentissage, donc c'est une question de curiosité notamment, mais dans le cadre de mon mémoire, j'étais amenée à faire des lectures qui remettent en question justement cette idée d'âge critique, et que notamment, par exemple, tout au long de notre vie, on gardait les mêmes capacités de perception et de discrimination des sons, et qu'on était toujours autant capable d'apprendre une langue par la suite, et que c'était notamment d'autres facteurs comme le contexte d'apprentissage, le fait qu'on connaisse déjà une langue avant qui va influencer aussi l'apprentissage de l'autre langue. Et donc je voulais savoir si vous aviez, au cours de vos recherches, si vous étiez tombé sur des articles ou des études qui allaient à contresens de cette hypothèse de 1967 de Lemberg.
On a pris cette, pour être franche, seulement cette hypothèse, et elle est liée à l'élasticité des capacités mentales et de l'apprenant à apprendre la langue pendant cette période-là. Et il est dit qu'il est plus difficile, mais pas impossible, d'apprendre d'autres langues après cet âge-là. Après, ça reste juste une hypothèse, il en existe d'autres, mais pour le moment, c'est la seule qu'on a eue.
Parce que j'avais justement vu des... encore une fois, je ne suis pas allée dans le détail, donc je ne vais pas non plus argumenter beaucoup là-dessus, mais qu'il y avait des études qui disaient que le cerveau restait assez plastique pour acquérir une langue et que cette idée de perte cognitive, je ne sais pas comment on dit exactement, n'était pas tant attestée par les études. Donc, ouais, je trouve ça intéressant.
Il va falloir voir, parce que c'est vrai.
Merci. D'autres questions ?
J'aurais besoin du micro, je pense. C'était par rapport à l'espace interlangue. Vous pouvez expliquer ce que c'est ?
Alors du coup, l'interlangue, c'est un système vraiment spécifique de l'apprenant. Il le construit tout seul au cours de son apprentissage. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment spécifique, c'est qu'il il n'est pas commun à personne d'autre que l'apprenant lui-même.
En gros, c'est l'espace entre la langue, la L2, la langue étrangère, et la langue maternelle, comment dire, c'est le lien qu'on crée entre les deux ?
Non, pas vraiment. En fait, c'est justement à partir de sa première langue. Ensuite, et pour la seconde langue, il va entendre des énoncés qu'on lui a adressés ou en lire. Et à partir de ça, il va lui-même construire son interlangue, donc du coup, ce qu'il va interpréter de la langue secondaire.
Ok, c'est les associations qui sont faites entre... D'accord. Ben, merci, c'était juste ça.
Est-ce que vous savez à quel point la proximité des familles linguistiques peut avoir un impact sur la vitesse d'apprentissage d'une langue, par exemple, d'une langue étrangère ? Par exemple, si une langue de famille romane, par exemple, facilite l'apprentissage ?
Alors, pour l'instant, le sujet il était trop large pour s'axer sur des questions comme ça, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de développer ça.
Et... si je peux ajouter les similarités entre les familles langagières, l'influence peut soit aider ou bien elle peut entraver la langue apprise qui est en train d'être apprise.
Il n'y a pas d'autres questions ? Et bien, du coup, on va conclure. Merci beaucoup, les filles.